Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux. Alors nous allons dans quelques instants célébrer la table du Seigneur et nous devons venir avec nos cœurs préparés. Mais le thème de ce matin est un thème qui nous prépare aussi à cela et je vous invite donc à lire dans Hébreux, vous avez déjà arrivé à Hébreux, maintenant au chapitre 7. Nous allons lire tout le chapitre en étant attentifs à la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et celui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui les choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme des souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Verset 1 du chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Jusque-là, la parole. C'est un texte un peu difficile, hein, encore à comprendre, mais j'aime bien le verset 1 du chapitre 8. Il dit le point capital de tout ce qui vient d'être dit. Si vous n'avez pas tout saisi, voilà le point capital, il dit. Et il dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Donc on sait que le chapitre 7 parle d'un souverain sacrificateur qui est un souverain sacrificateur par excellence, hein, qui est le souverain sacrificateur. Et tout le chapitre 7 établit la supériorité de ce souverain sacrificateur-là par rapport au souverain sacrificateur humain de l'ancienne alliance. C'est ce qui est fait ici. Donc nous n'allons pas regarder tout le chapitre 7, mais juste un verset du chapitre 7, et qui est un peu le thème de ce qu'on a eu comme temps d'adoration ce matin, c'est le verset 25. Le verset 25 dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il y a beaucoup de choses qui sont dites des souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance ici, beaucoup de limites qui sont montrées pour ces souverains sacrificateurs qui sont eux-mêmes des pécheurs, qui doivent offrir des sacrifices pour eux avant d'en offrir pour le peuple. Il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi sur les sacrifices eux-mêmes qui ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience, qui ne peuvent pas ôter le péché, d'accord, et qui doivent être constamment répétés d'année en année. Mais concernant Jésus-Christ, hein, on le dit dans notre révision de vérité fondamentale, lui s'est offert une fois pour toutes, d'accord. Il nous a réconciliés avec Dieu et puis il intercède pour nous. C'est ce que ce verset dit ici. Il dit lui, parce qu'il demeure, alors début du verset, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, le titre de ce message ce matin, c'est Christ capable de sauver à l'extrême. Christ capable de sauver à l'extrême. Après, il y a trois choses que l'on peut voir rapidement. C'est facile à voir dans ce texte. Il dit premièrement que Christ peut sauver parfaitement. Il dit qui Christ peut sauver parfaitement? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et il dit pourquoi Christ peut sauver parfaitement. C'est pour cela, il dit. Donc, et il dit Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, d'accord? Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc on va se laisser guider par la structure même que nous donne ce texte et considérer premièrement la capacité de Jésus-Christ à sauver. Parce que c'est ce dont il est question ici. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc, la capacité de Christ à sauver. Donc, je l'ai dit, hein, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle tout au long de cet épître de la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ, de son office en tant que souverain sacrificateur par rapport au sacrificateur de l'ancienne alliance. Et cette supériorité ici est mise en évidence en termes de capacité. Ce que Christ, dans sa sacrificature, dans son sacerdoce, est capable de faire. Jusqu'où il est capable de sauver. C'est ce que dit le texte ici. Donc il parle de cette supériorité en termes de capacité. Pas de capacité comme on en parle parfois, qu'on met à la fin d'un bulletin pour les élèves, vous savez, on dit, bon, a des capacités qu'il n'a pas exploitées. Hein. On dit ça des fois, vous savez, si vous êtes jeune, si vous n'avez pas beaucoup travaillé, des fois, les profs ont mis ça au bas de votre bulletin, hein. Des capacités inexploitées. Hein. Donc on suppose qu'on a les capacités, mais comme elles n'ont été jamais exploitées, on ne sait pas en fait si elles existent vraiment. Hein. Mais ici, c'est pas dans ce sens-là qu'il est question de capacité concernant Christ. Il peut sauver, il a la capacité de le faire, mais bon, ça dépend. Non, le texte parle de capacité en termes de pouvoir que Christ a d'accomplir quelque chose. Ça indique la puissance inhérente qui est en lui-même et qu'il a pour pouvoir accomplir, obtenir, arriver à un objectif. Et donc la capacité de Christ en tant que sacrificateur a déjà été soulignée dans cette épître. Regardez en Hébreux chapitre 2, verset 18. Hébreux chapitre 2, verset 18, par exemple. Il dit ici, « Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » D'autres textes disent « Il peut aider ceux qui sont tentés. » Donc, il y a la capacité de Christ aider ceux qui sont tentés, parce qu'il a lui-même souffert. Et regardez au chapitre 4, verset 15, encore, chapitre 4, verset 15, il dit, chapitre 4, verset 15, dit, car nous n'avons pas, alors c'est écrit sous la forme négative, mais dans d'autres traductions, c'est écrit sous la forme positive, hein, nous avons, hein, ici il dit, mais car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Autrement dit, il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à notre faiblesse. C'est le même mot qui est utilisé ici. Donc, il a cette capacité à compatir, à sympathiser avec nous. Il dit, hein, parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais dans le chapitre 7 que nous sommes en train de considérer, quand il dit que Christ a la capacité de sauver, il va très loin dans ce qui est dit ici. En fait, l'auteur ne parle pas simplement du fait que Christ est juste capable de sauver, mais il ajoute quelque chose, il dit de sauver parfaitement. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a la capacité de sauver parfaitement? Le mot qui est traduit par parfaitement, on pourrait le traduire, si vous lisez d'autres traductions de ce passage, d'autres versions de la Bible, il dit, il est capable de sauver entièrement. Il est capable de sauver définitivement. Il est capable de sauver à l'extrême. Hein, d'où le titre que j'ai pris, hein, Christ capable de sauver à l'extrême. Ici. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela donc peut bien sous-entendre? Sauver parfaitement peut vouloir dire sauver pleinement, c'est pas de manière complète, de manière achevée. Mais sauver parfaitement aussi, quand on regarde le contexte, parce qu'il est question, si vous regardez au verset 24, qu'il dit parce qu'il demeure éternellement. Possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, donc un sacerdoce éternel, dit ici, qui est permanent. Et c'est pour cela qu'il peut sauver à l'extrême. Autrement dit, donc on pourrait dire que dans cette capacité à sauver parfaitement est contenue aussi l'idée qu'il est capable d'apporter un salut qui va durer. Un salut qui est éternel. Qui est complet dans le sens qu'il est parfaitement accompli, mais aussi qui va pas se terminer, qui sera un salut éternel. Donc, il y a aussi ce sens-là qui est dans cette expression. Hein. Sous l'ancienne alliance, les sacrifices étaient, on a dit tout à l'heure, frappés d'impossibilité de faire quelque chose. Hein. Et la raison, l'une des raisons que l'Épître aux Hébreux donne, c'est la mort, le fait que les choses arrivaient à chaque fois à un terme. Les sacrificateurs, ils mouraient, il fallait qu'ils soient remplacés à chaque fois. Il n'y avait pas de permanence. Les choses n'étaient pas continuelles. Ici, il dit que Christ a la capacité de sauver de manière entière, définitive, éternelle, complète. Ce qu'il soutient ici. Mais qu'est-ce que cela sous-entend donc? De dire qu'il peut sauver à l'extrême. Cela sous-entend, je suppose, la perdition extrême, grande, on pourrait dire, hein, dans laquelle se trouve le pécheur. S'il peut sauver à l'extrême, c'est que la perdition dans laquelle on est très grande. Ce n'est pas une petite affaire. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, m'a dit une fois quelqu'un. Parce que je ne suis pas perdu. Voilà. Vous voyez, quand on... Évidemment, si on ne se... C'est pas perdu, si on ne se croit pas perdu, on ne voit pas pourquoi on a besoin d'être sauvé, ni de quoi on a besoin d'être sauvé. Et je me rappelle de ce jeune homme qui me disait, moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Quand on a dit, mais Christ peut sauver, moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé, je ne suis pas perdu. D'accord. Et donc, je crois que quand ce passage nous dit que Christ peut sauver à l'extrême, il mène à la pensée à quel point l'homme est perdu. Et la plupart des hommes ne réalisent pas l'état de misère dans lequel le péché les a plongés. Quand nous apprenons nos vérités fondamentales, nous disons, quelle a été la conséquence du péché d'Adam sur l'humanité? Et la réponse, c'est la conséquence du péché d'Adam a été que tous les hommes naissent dans le péché et demeurent sous la colère et le jugement de Dieu. Et ils sont assujettis à la misère, à la mort, et à l'enfer. Donc, ce verset dit que nous sommes ceux qui ne connaissent pas Christ. L'homme pécheur est dans un état de perdition profond. Et que nous n'avons pas besoin, en fait, d'être aidés. Nous n'avons pas besoin d'un petit coup de pouce, comme le SMIC chaque année, un petit coup de pouce pour augmenter. C'est pas ce dont on a besoin pour que les choses aillent mieux. Il dit que nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous montre l'exemple à suivre. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous donne quelques astuces pour que nous puissions mieux nous en sortir. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un dont la vie inspire la nôtre. Nous n'avons pas besoin de mieux faire. Nous n'avons pas besoin de mieux résister à la tentation. Nous avons besoin d'être sauvés. C'est tout ce dont nous avons besoin, parce que nous sommes perdus. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être sauvés. Nous n'avons pas besoin plus de quelque chose, nous avons besoin d'être tirés d'un état de perdition dans lequel nous nous trouvons. Donc quand l'auteur de l'Épître dit ici que Christ peut sauver à l'extrême, il souligne l'extrême, profondeur du péché dans lequel on se trouve. Et quand il dit que Christ peut sauver à l'extrême, il indique aussi l'extrême danger qui menace ceux qui sont enfoncés dans le péché, ceux qui sont sans Christ. Il y a un danger. La puissance du salut de Christ est à la mesure du danger dont il nous sauve. Donc, s'il dit il peut sauver à l'extrême, c'est que le danger dont on doit être sauvé est grand. Et de quoi est-ce que nous avons besoin d'être sauvés? Je ne sais pas comment vous répondriez à cette question. De quoi est-ce que nous avons besoin d'être sauvés? Vous savez de quoi nous avons besoin d'être sauvés? De Dieu lui-même, de sa colère et de son jugement. Et c'est pour cela que le salut dont on a besoin est un salut extrême, parce qu'il faut être sauvé de la colère du Dieu saint. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Lorsque les Thessaloniciens se convertissent. L'apôtre Paul dit, on raconte comment vous vous êtes convertis. Vous vous êtes détournés de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux qui, Jésus, son Fils, qui vous préserve de la colère à venir. Et c'est cela dont nous avons besoin d'être sauvés. L'épître aux Romains dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice qui retiennent injustement la vérité captive. Oui, nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés, mais parce que nos péchés nous placent sous le coup de la colère de Dieu et du jugement de Dieu ici. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un sauveur qui sauve à l'extrême. Il faut un sauveur, un sacrificateur supérieur, plus excellent, permanent, qui intercède continuellement, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, nous dit l'Épître aux Hébreux, verset 26 que nous venons de lire. Un sacrificateur qui s'offre lui-même, un sacrificateur qui soit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Si pour être sauvé, il faut un tel souverain sacrificateur, c'est que ce dont il faut être sauvé n'est pas une petite affaire. S'il faut un tel souverain sacrificateur pour sauver, c'est que ce dont on doit être sauvé, ça n'est pas une petite chose. Rien de moins que la colère du Dieu saint. Et donc le danger le plus terrifiant qui guette et qui menace, ça n'est pas la guerre nucléaire, ce n'est pas qu'un chef d'État appuie sur un bouton et que ça fasse boum. C'est pas ça. Ce n'est pas une pandémie qui toucherait le monde entier, qui décimerait le monde entier. C'est pas cela le danger dont on a besoin d'être préservé. Le danger qui fait face à chacun d'entre nous, c'est celui un jour d'affronter la justice de Dieu, la sainte colère de Dieu contre le péché. Je vous lis cette citation d'un prédicateur anglais du 19e, début du 20e siècle, s'appelait Meyer. Il dit, il y a un besoin urgent, une nouvelle conscience, une nouvelle conviction de notre état de pécheur. Tant chez les incroyants que chez les professants, que chez ceux qui professent être croyants. Il dit, des vues légères du péché donnent une faible idée du sacrifice du calvaire. Une faible idée de la nécessité de la propitiation, le fait que Dieu nous soit propice. Et de la redoutable punition future en cas de faute délibérée, je veux dire. En cas de ne pas se tourner vers Christ. Si les hommes comprenaient vraiment ce qu'est le péché, ils ne parleraient pas avec autant de désinvolture de leur complète délivrance, confondant ainsi les quelques péchés dont ils ont connaissance avec la masse de mal qui gît encore dans leur nature, comme la boue au fond d'un lac qui n'a besoin que d'être remué pour se montrer. Ce qu'il dit ici, c'est que parfois on est, parce qu'on a une petite victoire sur quelque chose, on finit par se croire arrivé. Et il dit ici que on n'a pas idée de combien nous sommes pécheurs. On n'a pas idée de combien le péché nous caractérise. Et il dit, si on a conscience, si on avait conscience de cela, si les hommes ressentaient réellement leur péché, ils se précipiteraient unanimement vers le précieux sang et vers l'unique prêtre pour obtenir l'absolution et le pardon. Et c'est cette image qu'avait, si vous voulez, le peuple d'Israël avec ses sacrifices On avait vu ça avec les ados, hein. Ces sacrifices qui se répétaient jour après jour. Imaginez la quantité d'animaux qui étaient tués tous les jours. Il semble qu'il y avait des rivières et des rivières de sang qui coulaient à longueur de journée. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses ainsi? Pour qu'il y ait une conscience de la gravité du péché, de ce qu'exige le péché, la mort et la substitution. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait que quelqu'un paye à la place d'eux. Et la nécessité d'un sacrificateur, parce que personne ne pouvait s'approcher, seul le sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et ça, c'était continuellement sous leurs yeux. Chaque fois qu'ils péchaient, ça revenait à leur esprit. Et voilà pourquoi c'était un temps d'instruction avant que Christ ne vienne, pour maintenir conscient la laideur du péché, la conséquence grave du péché, le besoin qu'a l'homme d'être délivré de son péché. Et donc Christ peut sauver à l'extrême, doit nous maintenir présents à l'esprit que le péché est grave, que nous sommes, que l'homme pécheur est sous le coup de la condamnation de Dieu et qu'il risque, s'il ne se tourne pas vers Christ, le jugement de la sainte colère de Dieu. Donc Christ peut sauver à l'extrême, ça veut dire qu'il peut sauver jusque dans ce que Dieu exige le plus, jusque dans ce qui est le plus élevé dans les exigences de Dieu pour pouvoir sauver les humains. Seul lui peut le faire. Si le péché abonde, dit la Bible, la grâce surabonde. Donc si le péché est quelque chose de grave, bien de grand, bien la grâce de Dieu est au-dessus de tout cela. Et Christ peut sauver au-dessus de tout cela. Aussi loin que l'on peut penser, il peut sauver. Autant de péchés qu'on ait commis, il peut sauver. Il peut sauver parfaitement, complètement, de manière la plus extrême qui soit. C'est la première chose qu'il souligne. La deuxième chose, ce sont les bénéficiaires de cette capacité effective de Christ à sauver. Donc ce sont les bénéficiaires de ce salut parfait, si j'ose dire. Il dit, c'est aussi, regardez le verset 25, encore d'Hébreux 7, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ce puissant salut n'est pas à mettre ici au compte de tous. Il n'a pas dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement le monde entier. C'est pas ce qu'il dit. Donc nous ne devons pas le dire. Il dit, il peut sauver parfaitement. Il est capable, il a la puissance pour sauver quiconque s'approche de lui, s'approche de Dieu par lui. On ne se sauve pas du jugement de Dieu, en fait, ici, en fuyant Dieu. Il y a des dangers qu'il faut fuir pour s'en préserver, n'est-ce pas? Mais on ne se sauve pas de Dieu en fuyant Dieu. On se sauve de Dieu en faisant quoi? En s'approchant de Dieu. La seule issue pour fuir la colère de Dieu, c'est de venir à Dieu. C'est la seule issue. Il dit qu'il sauve parfaitement, il sauve complètement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc le seul moyen d'être à l'abri du jugement de Dieu, d'être délivré de ses péchés, et d'être préservé de la colère de Dieu, c'est de venir à Dieu par Jésus-Christ. Ceux qui s'approchent, n'est-ce pas, dit-il, non pas ceux qui regardent de loin, ceux qui ne sont pas contre. Donc, moi, je suis pas contre. Non, il ne parle pas de ceux qui ne sont pas contre, il ne parle pas de ceux qui regardent de loin, il ne parle pas de ceux qui suivent de loin, que ceux qui suivent parce que leurs parents s'approchent. Il ne parle pas de ceux qui connaissent quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui s'est approché. Hein? Parfois, on fait comme ça avec des choses. Hein? Je connais un chrétien qui a... Non, il parle de ceux qui s'approchent. De ceux qui s'approche de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux souligne l'importance de s'approcher de Dieu. 4.16, regardez Hébreux 4.16. On va faire un petit parcours dans Hébreux. Hébreux 4.16, il dit ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secourus dans tous nos besoins. Hébreux 10.1, regardez Hébreux 10.1 dit, en effet, la loi possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Le mot qui est amener les assistants, c'est l'autre traduction dit amener ceux qui s'approchent, hein, à la perfection ici. Hébreux 10, 22, même chapitre, verset 22, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 12, verset 18, dit ici encore, vous ne vous êtes pas rapprochés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Puis au verset 22, il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc, et puis, non, c'est tout, chapitre 12, verset 22. Donc on voit ici, dans l'Épître aux Hébreux, combien il est question de s'approcher de Dieu. En fait, on pourrait dire qu'on a une définition du chrétien ici véritable. C'est celui qui s'approche de Dieu par Jésus-Christ. Et le temps du verbe ici au présent, c'est pas celui qui s'est approché un jour, mais c'est celui qui s'approche et qui est toujours en train de s'approcher de Dieu. Parce que rappelez-vous, on avait étudié l'épître dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18 où l'apôtre Pierre disait Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Et donc le mouvement, si j'ose dire, dans lequel le chrétien est et c'est celui qui consiste à continuellement s'approcher de Dieu. D'accord. Et ici, on est donc invité à cela, à s'approcher de manière régulière. Mais notez aussi qu'il est question de s'approcher de la bonne manière. Hein. Il n'est pas dit approchez-vous tout simplement comme vous voulez, mais il dit qu'il est un sauveur qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, comment ? Par lui, c'est-à-dire par qui ? Par Jésus-Christ. On ne peut s'approcher de Dieu que par Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, oui, mais tous les chemins mènent à Rome. Oui, à Rome peut-être, mais pas à Christ. D'accord ? Il faut, pour s'approcher de Dieu, le faire uniquement par Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui est donné. Hein. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, tout à l'heure, qui nous a été donné. Hein. Sinon, Jésus-Christ, ici. La Bible est claire là-dessus. Jésus sauve à l'extrême ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Donc, si vous avez un autre moyen, c'est que vous ne connaissez pas véritablement le salut que Dieu offre. On s'approche de Dieu par Jésus-Christ. Et donc, c'est à Jésus-Christ qu'il faut venir. C'est à lui qu'il faut regarder. C'est le sacrifice qu'il a accompli à la croix du Calvaire qu'il faut recevoir pour être sauvé. Donc, il faut venir, hein, s'approcher. Et c'est ce que l'Évangile nous invite à faire. Parfois, on dit souvent, j'ai invité Christ à entrer dans mon cœur. Comme ça que je me suis sauvé. Mais on comprend ce que ça veut dire, un peu, ce qu'on veut dire par là. Mais l'Écriture dit les choses un petit peu différemment. Il dit que c'est Christ qui nous invite, c'est Dieu qui nous invite à venir. C'est lui qui dit quoi ? Venez. C'est pas nous qui disons viens, c'est lui qui dit essentiellement venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Isaïe 55 dit, venez, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez, achetez sans argent, et vous allez pouvoir vous délecter de mes délicieux. Mais c'est Dieu qui dit, venez, approchez-vous. mais pas de n'importe quelle manière. On l'a vu ici, approchons-nous, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut le faire, bien sûr, par Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui nous amène à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et après, il dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, aller au Père, aller à Dieu, avoir accès à Dieu, implique absolument de le faire par Jésus-Christ, par une repentance et par une foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour qualifier ceux qui sont les bénéficiaires de ce salut qui sauve à l'extrême. Et troisièmement, je voudrais souligner ici la raison, on pourrait dire, de ce puissant salut. Le verset 25 du chapitre 7 dit « C'est aussi pour cela ». Donc quand il dit « c'est aussi pour cela », il nous ramène à ce qu'il dit avant. Pourquoi est-ce que Jésus peut sauver à l'extrême ceux qui s'approchent de Dieu par lui? Mais c'est pour cela. Alors qu'est-ce qu'il dit avant? Regardez au verset 24, ici du chapitre 7. Il dit « mais lui, parce qu'il demeure éternellement ». Alors verset 23 déjà dit « de plus il y a eu plusieurs sacrificateurs, des sacrificateurs, pardon, un grand nombre ». Parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est pour ça qu'il y en avait beaucoup. Donc le fait qu'il y en avait beaucoup semble être présenté comme une limite, comme une faiblesse. Pourquoi? À cause de la mort. Mais lui, c'est pas pareil. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est aussi pour cela. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il demeure éternellement qu'il peut sauver parfaitement. Il dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Et pourquoi? Parce que, étant vivant, il peut, étant toujours vivant, il peut intercéder en leur faveur. Donc, l'auteur dit ici que ce qui assure aux croyants la perfection du salut, la raison pour laquelle Christ peut sauver à l'extrême, c'est la permanence de son sacerdoce. C'est le fait qu'il soit sacrificateur pour toujours, encore aujourd'hui. C'est pour cela, d'accord, et parce qu'il demeure éternellement, étant toujours vivant pour intercéder. Ce sont là les raisons que donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Les sacrificateurs lévitiques étaient sujets à la mort, mais Christ, lui, il vit éternellement. Et regardez au verset 16, je crois, du chapitre 7, il dit que Christ n'a pas été institué sacrificateur selon une loi comme les sacrificateurs à la suite d'Aaron, mais il dit, mais selon la puissance d'une vie impérissable ou indestructible. Et ça caractérise le sacerdoce de Jésus-Christ. Il vit éternellement et c'est ce qui fait qu'il peut sauver parfaitement. Mais cela ramène à une pensée quand même. Parce que quand on pense à l'œuvre de Christ, franchement, on y pense toujours au passé. La plupart du temps. On va partager la table du Seigneur tout à l'heure, on va se rappeler de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Ce sont des événements passés. C'est vrai qu'on souligne parfois le fait qu'il va venir. D'accord? On souligne qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il va venir. Mais en termes d'œuvre accomplie, on parle souvent de l'œuvre accomplie dans le passé. Il est mort, c'est une fois pour toutes qu'il est mort. Il est ressuscité une fois. Et il vit éternellement. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ à une œuvre qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui même et en ce moment même. Parce qu'il dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et ça, c'était une fonction du souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, d'intercéder pour le peuple. Il se mettait entre Dieu et le peuple et il intercède, il priait aussi pour le peuple. Et l'auteur dit, actuellement, Jésus intercède pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. pour tous les croyants. Aujourd'hui même. Donc, il est en train d'accomplir un ministère actuellement, à l'heure même où nous sommes en train d'écouter ces paroles. Et c'est une chose qui est importante parce que l'auteur dit ici que c'est parce qu'il intercède maintenant qu'il peut sauver parfaitement. Autrement dit, notre salut tient à ce que Christ est en train de faire aujourd'hui. Pas seulement à ce qu'il a fait dans le passé sur la terre, mais à ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui dans le ciel. Et c'est parce qu'il accomplit une œuvre dans le ciel et qu'il peut l'accomplir tout le temps que nous sommes garantis, que nous avons la garantie que nous sommes réellement sauvés. La Bible dit, Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Et l'apôtre Paul dit la même chose en Romains chapitre 8. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? La réponse évidente, c'est personne. Mais il dit, mais pourquoi personne ne peut anéantir ni toucher les élus de Dieu? Parce que Christ est mort, il dit. Bien plus, il dit, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 34. Donc, on voit l'importance du ministère présent de Christ aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons, bien sûr, penser, qui doit aussi nous réjouir. Et nous récitons, nous l'avons récité ce matin, Jésus-Christ remplit la fonction de sacrificateur en s'offrant en sacrifice lui-même une fois pour toutes. Ça, il l'a fait, c'est une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à faire là-dessus. Mais il nous a réconciliés, ça y est, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais tout cela, il dit, c'est garanti aussi par le fait qu'il intercède encore continuellement. S'il cesse d'intercéder, il n'y a pas de garantie au salut. S'il cesse d'intercéder, ça fait partie, il faut qu'il soit dans la présence de Dieu continuellement, comme le sacrificateur, parce que nous avons besoin de sacrificateur. Et sans sacrificateur qui intercède, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Et l'apôtre Pierre rassemble ça, je pense, quelque part, quand il dit, on avait lu cela en Pierre, quand il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés pour le salut prêt à être révélé. » Donc il y a des choses qui sont gardées, des choses pour lesquelles Dieu nous garde, parce que tout n'est pas encore arrivé à son plein accomplissement. Alors en quoi consiste cette intercession? Intercéder, ça a le sens de rencontrer quelqu'un dans le but d'une conversation. Parfois, il y a ce sens-là. Et ça signifie aussi entendre une plainte. Mais on peut, pour avoir une idée, penser à ce que le sacrificateur faisait pour accomplir son office. Il devait entrer dans le lieu très saint et comparaître là avec le sang des sacrifices. Et c'est ce que Jésus fait. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est entré dans le sanctuaire une fois pour toutes, non avec le sang des boucs, et des taureaux, mais avec son propre sang, et qu'il a obtenu une rédemption éternelle. L'Épître aux Hébreux. Mais on lit aussi dans l'Épître aux Hébreux ceci, car Christ n'est pas entré dans Hébreux 9, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Est-ce que j'ai bien lu le verset? Si vous avez lu dans votre Bible. Afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Il manque un mot. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc Christ, maintenant, est en train de comparaître pour nous, pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui, devant la face de Dieu. Et il entre, il est entré avec le sang, et ça c'est, la Bible dit, hein, que, avec ce sacrifice, hein, voilà, c'est lui qui est le sacrifice, hein, qui s'est offert. Et constamment, on pourrait dire, hein, Dieu a sous les yeux le sacrifice qui est accompli et par lequel il peut nous être propice, par lequel il peut nous pardonner. Mais donc il y a cette idée de fait que Christ apparaît continuellement en présence de Dieu, donc ça c'est une part de l'intercession ici pour nous, mais il y a aussi l'idée qu'il prie pour nous aussi, pour les croyants. L'intercession, c'est aussi, dans l'Écriture, une prière, une pétition, une requête. Christ prie pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il prie pour chaque croyant qui s'approche de Dieu par lui. Celui qui vient à Dieu dans la foi à Christ est au bénéfice, il est au bénéfice de l'intercession de Christ. Christ prie pour que cette approche soit effective, hein, on pourrait dire les choses ainsi. Il prie pour que la foi ne défaille pas, rappelez-vous, hein, on peut pour avoir une idée de ce que Christ demande, on peut regarder ce qu'il a demandé quand il était sur la terre. La Bible dit que à un moment donné, il parle à ses disciples et puis il dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Il dit: mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc Christ prie pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Qu'est-ce qu'il peut demander encore? On peut regarder dans Jean chapitre 17 ce qu'il demande. On appelle cette prière la prière sacerdotale, la prière du prêtre, la prière du sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il demande dans cette prière? Juste un verset, Jean 17, verset 11, il dit: « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Il prie pour que Dieu les garde. Garde-les. Tu me les as donnés. Je les ai gardés. Je leur ai annoncé ta parole. Ils se sont tournés vers toi. Ils sont dans le monde. Il dit pour ses disciples. Et il prie aussi plus loin, on le voit, pour ceux qui vont croire suite à la parole des disciples, c'est-à-dire nous les croyants d'aujourd'hui. Il prie pour son Église, pour que Dieu garde, il intercède. Et la Bible dit que si Christ ne fait pas cela, il n'y a pas de salut. Il peut sauver à l'extrême parce qu'il est actuellement, aujourd'hui, à l'instant même où nous parlons, en train d'intercéder pour les croyants. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit, je reprends le verset que j'ai lu tout à l'heure, quand il dit que il parle d'un héritage dans le ciel qui nous est réservé, qui ne peut ni se souiller, ni se flétrir, et ni se corrompre. Il dit, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes quoi? Qu'est-ce que Jésus prie? Garde-les. Il dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par quoi? Par la foi. Et Christ prie pour que la foi ne défaille pas. Et donc, quand Pierre dit, votre salut est réservé, quelque part, parce qu'on peut faire le lien, la connexion entre le fait que, eh bien, il est réservé dans les cieux grâce à l'intercession continuelle de Jésus-Christ. C'est pour cela, dit l'apôtre, l'épître aux Hébreux, peut-être c'est l'apôtre Paul, je sais pas, mais c'est pour cela, dit-il, que Christ sauve parfaitement, à l'extrême, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est vivant et qu'aujourd'hui, son ministère n'est pas interrompu. Aujourd'hui encore, il intercède pour chaque croyant qui s'approche de Dieu par lui. Alors, je vais terminer en disant ceci, chers frères et sœurs. Christ est capable de sauver à l'extrême. Et nous n'avons pas besoin de moins qu'un sauveur qui sauve à l'extrême. Parce que ce qu'il fait, c'est ce dont nous avons besoin. Car nos péchés, notre péché est grand et le jugement de Dieu contre le péché est terrible. Nous faisons souvent toutes sortes d'efforts pour lutter contre le péché. Pour ceux qui font des efforts. Et nous faisons de la victoire contre le péché un objectif à atteindre. Si jamais j'arrivais à dompter le coup à ce péché qui me colle à la peau, au moins là, ça serait bien. Qui n'a jamais pensé comme ça? Ah, je pense comme ça. Si je pouvais tordre le cou à ce truc qui me... Et on cherche la victoire contre le péché. Et lorsque nous arrivons à un semblant de victoire, c'est pour nous rendre compte que nous rechutons parfois aussitôt. N'est-ce pas? Ce dont nous avons besoin, ça n'est pas une méthode pour lutter contre le péché. C'est bien d'avoir de la méthode, c'est bien d'avoir de la stratégie, mais si ma confiance est dans la méthode et dans la stratégie, ça ne marchera pas. Lis 3 psaumes, 2 versets par là, mets un code ici, un autre code par là, verrouille ceci, ferme les yeux quand tu peux. On peut trouver toutes sortes de choses que l'on peut dire ici. Et c'est bien d'avoir de la stratégie, mais ce n'est pas d'une méthode dont on a besoin. Ce n'est pas d'une prière dont on a besoin. Ce n'est pas d'une sincérité plus grande dont on a besoin, mais d'un souverain sacrificateur, puissant, qui demeure vivant pour intercéder pour nous. Je vous cite encore ce prédicateur Maillard. Il dit, il y en a beaucoup de nos jours qui se posent des questions sur la pureté du cœur, sur la mesure dans laquelle nous pouvons être délivrés du péché et autres spéculations de ce genre. À cela, nous disons, cessez de penser à la purification, considérez le purificateur. Détournez vos yeux du péché. Tournez-le vers celui qui sauve du péché. Il dit ceci encore. Il dit, abstenez-vous de spéculer sur la délivrance et allez traiter avec le libérateur. C'est à Jésus-Christ qu'il faut regarder. C'est pas à notre péché. C'est l'obéissance qu'il faut rechercher. Venir à lui, et pas la victoire. La victoire, elle a nous comme centre. Je veux remporter cette victoire, et puis quand ça sera fait, ça sera grâce aux efforts que j'ai accomplis. Mais on doit reconnaître qu'on est dans la boue du péché, qu'on est incapable de nous sortir par nous-mêmes, et venir nous approcher du seul, de l'unique qui a le pouvoir et la capacité de sauver à l'extrême, Jésus-Christ. Il a payé une fois pour toutes. Il est assis à la droite de Dieu dans la majesté divine et il intercède pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Et le salut de ceux-là est assuré. Alors cessons de regarder à nous-mêmes et pour être délivrés du péché, regardons à Christ, allons à lui, cherchons à marcher dans l'obéissance à sa parole, ayons confiance en lui, repentons-nous de nos péchés quand il nous les montre. Et quelle assurance, n'est-ce pas, de savoir que Christ sauve à l'extrême et qu'aujourd'hui même, en ce moment même, il prie pour nous. Ce n'est pas un grand théologien qui prie pour nous. Ce n'est pas un grand pasteur qui prie pour nous. Ce n'est pas un frère plus mûr dans la foi qui prie pour nous. Même si toutes ces choses sont appréciables. Mais Dieu lui-même prie pour nous afin de nous préserver de sa propre colère et de garantir éternellement notre salut. Quelle joie, quelle joie. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Oui, parce que tu demeures vivant, tu peux intercéder pour nous. Tu peux intercéder pour ceux qui s'approchent de Dieu par toi. Et tu es capable, nous dit ta parole, de sauver jusqu'à l'extrême, jusqu'au plus haut point. Il est impossible que lorsque tu sauves, on ne soit pas sauvé. Il est impossible que lorsque tu sauves, on soit perdu. Oh Seigneur, quelle grâce de savoir que, oui, tu es celui qui a donné ta vie pour nous. Oui, tu es celui qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification. Tu es celui qui est monté au ciel, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est assis à la droite de la majesté divine. Mais quelle grâce encore de savoir que aujourd'hui même, tu garantis notre salut en continuant à officier pour nous, à accomplir ton œuvre médiatrice, ton intercession pour chacun d'entre ceux que tu rachètes. Te prions que tu nous aides à ne point garder les yeux fixés sur notre faiblesse et sur nos péchés, mais de regarder à toi qui nous délivre parfaitement du péché et qui nous préserve de la colère à venir. Nous te prions pour ce matin pour tous ceux qui sont dans cette salle et qui ne te connaissent pas, afin que tu puisses les saisir, Seigneur. C'est toi qui attires vers le Père. Et nous te prions que tu viennes, que tu saisisses leur cœur, que tu suscites la foi en eux, afin qu'ils se repentent. Et je te prie pour chacun de ceux qui te connaissent, pour nous. Tu connais nos luttes, tu connais les illusions que nous nous faisons, parfois même dans notre lutte contre le péché. Je te prie que tu nous aides à considérer les choses dans ce domaine comme ta parole les considère. Nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes, aucune force. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne-nous de regarder à toi, de venir à toi dans la repentance, Seigneur. Et que tu nous délivres, toi qui es le grand sauveur, que tu nous protèges, quoi, toi qui es le grand protecteur, que tu pries pour nous, toi qui es le grand intercesseur. Et nous savons, Seigneur, que Dieu ne manquera pas d'exaucer ta prière. Ô Seigneur, remplis nos cœurs de reconnaissance et de joie pour la merveilleuse œuvre que tu as accomplie et que tu accomplis encore aujourd'hui pour nous. Que ton nom soit béni. Amen.